du fer à l'être.
Bonjour, je suis votre animateur Michel Boutotte.
Et je suis la co-animatrice Micheline Garneau.
Comment vas-tu?
Là, je ne sais pas si je vais te répondre.
Pourquoi?
Parce que ça ne me tente pas.
Ça ne tente pas de me répondre?
Non.
Ah bon? Alors, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas mal, tu flailles?
Je suis dans les nuages.
Ah, oui, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Dois-je raconter mon aventure avec mon cœur?
Tu as mal au cœur? Tu as une peine d'amour?
Oui, mon cœur, il faisait boum, boum, boum.
Ah.
Puis là, il était tellement énervé qu'il m'a énervé.
Mm-hmm.
Puis j'ai dû consulter. Waouh, ça rime.
Oui, tu fais des vers sans le savoir, comme on dit.
Trop bête, m'en apercevoir.
Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Je parlais avec un de mes amis, et puis, il me dit comme ça, il dit, ben, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Il dit, est-ce que je peux aider? Alors, j'ai dit, oui, tu peux aider. Tu vas être notre invité sur le balado du fer à l'être. Et Daniel Boivin. Bonjour, Daniel.
Bonjour, je suis content d'être ton ami, Michel.
Je t'ai jamais demandé, hein?
Non, mais c'est accepté.
C'est accepté. Ah, oh, mon Dieu, c'est une grande annonce, là. Micheline, tu connais Daniel, toi?
Oui, et c'est avec joie que nous recevrons Daniel.
Je ne t'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui fait que tu as accepté notre invitation?
Parce que ça fait partie de moi d'être généreux, volontaire et tout ça. Désir de plaire, j'aime ça.
Toi, tu es prêtre. Oui. Tu as été ordonné en quelle année?
En 2005, ça veut dire que ça fait 17 ans, 17-18 ans. J'ai été ordonné à Saint-Antoine de Padoue, à Longueuil. C'est mm-hmm. assez fascinant. Il y a 1200 personnes dans un lieu donné.
Mm-hmm.
Et là, tu te retournes, ils t'applaudissent, évidemment. Tu as été ordonné, c'est le gros youpi. Et là, tu te rends compte que tu connais tout le monde par leur nom.
Wow.
1200 personnes que tu connais par leur nom.
Est-ce wow. que tu les as nommés cette journée-là par leur nom?
Je les ai renommés en regardant les photos après.
D'accord. Tu es engagé à plusieurs endroits, je pense, dans plusieurs domaines, devrais-je dire?
Oui, mais durant la pandémie, c'est sûr qu'il ouais. y a eu moins de déplacements et de rencontres, tout ça, mais je suis responsable des jeunes, des JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse qui s'en viennent. Et aussi de la pastorale missionnaire, la pastorale des vocations.
Mmh.
Alors là, puis là, j'hérite de d'autres dossiers qui viennent avec. Dans quelques semaines, là, je vais hériter de la famille, du mariage, des aînés et des malades. Alors, oh, tu vois, le spectre s'agrandit.
Mmh. Le missionnaire, t'as dit, comment tu t'appelles?
La pastorale missionnaire, c'est la pastorale qu'on appelle la pastorale ad extra, c'est-à-dire que on envoie des sous depuis des années là, dans des pays où il y a des missions pour former des séminaristes, entre autres, puis ouvrir des lieux là, de culte et tout ça dans différents pays. Et ben c'est ça, il y a un organisme pontifical, les œuvres pontificales missionnaires qui s'occupent de ça. Et ils nous envoient de la publicité, puis moi je la diffuse. J'ai pas d'activité comme telle parce que c'est pas la mission chez nous. Quoique la mission chez nous, ça peut aussi consister à aider ceux qui sont en difficulté ailleurs puis qui partagent le même bagage spirituel, disons.
Avec tous ces dossiers-là, Daniel, yes. moi, je suis persuadée que c'est une réussite et ça va être une réussite parce que tu as l'âme pour ça.
Si tu le dis, Micheline, si tu le dis. Mais je me définis beaucoup comme étant un paresseux, c'est drôle à dire, hein?
Un paresseux actif.
Ouais, un paresseux actif. le désir d'apprendre... bon, durant la pandémie, c'était clair qu'on ne pouvait pas se rencontrer en personne, mais j'ai suivi des centaines et des centaines et des centaines de conférences sur Zoom. Mon père me disait toujours, il faut que tu apprennes quelque chose.
Mis à part la formation théologique,
ouais.
Dans ta préparation à la prêtrise,
ouais.
as-tu une autre formation?
Bon, Sciences Po, histoire, journalisme, j'ai fait de l'armée aussi.
Mm-hmm.
J'ai même fait mon petit cours d'ambulance Saint-Jean, si ça peut t'intéresser. Un cours de 3 heures, mais ça fait partie de ma formation.
Ben, si Micheline a des problèmes...
avec son cœur, oui.
C'est ça, avec son cœur, on sera là pour l'aider. En tout cas, tu seras là pour l'aider.
Oh, bon. Je ne sais pas si ma carte est encore bonne.
Mais tu as parlé de journalisme. Oui. Chic, tu as écrit quelques livres. Ouais?
Oui, c'était des textes de réflexion tout court sur un sujet donné. Alors que j'en ai un autre, mais il est perdu dans le nuage des internets. Il est perdu parce que le site qui hébergeait ça est fermé. Alors j'avais fait pour le semainier paroissial à Saint-Bruno et Saint-Basile à l'époque, toutes mes homélies étaient écrites.
D'accord.
Alors j'ai l'habitude aussi d'introduire mes textes. Comme j'avais déjà écrit beaucoup comme journaliste et tout ça, habitué à lire beaucoup et à écrire beaucoup, ben j'ai encore d'habitude de résumer, de situer les textes avant qu'on les lise durant les Eucharisties. Ça situe les gens. Puis je vois qu'ils sont intéressés. Ils se demandent un peu où je m'en vais, des fois, là, mais ils voient bien que il y a une culture derrière là, de raconteur.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Daniel, pour que tu entrevoies une vie dans la prêtrise?
Ça s'est passé en 2 étapes. D'abord, ma formation très classique. Au primaire, ma mère me faisait l'école avec les livres des Sœurs de Sainte-Anne, alors que j'allais à l'école. T'sais. Et au secondaire, mon père avait ses livres du Mont-Saint-Louis, donc les Frères des écoles chrétiennes. Et j'apprenais toutes ces affaires-là, la philosophie, toutes ces choses-là. Alors, j'ai baigné dans cette culture-là, la culture religieuse, les marches à l'oratoire Saint-Joseph et tout ça, mais pas de la bondieuserie, là. Mon père était quelqu'un qui avait fait ses humanités, comme on dit, puis il était capable de réfléchir, puis il m'a appris à réfléchir, et bon, ça, c'est la première étape, disons. La deuxième étape, c'est lors d'une rencontre, bon, j'ai déjà été journaliste, tout ça, et, bon, pour faire une histoire courte, quand je suis revenu de Québec, cette fois-là, j'ai été accueilli par ma mère qui disait, bon, mais enfin, là, mon bâton de vieillesse qui revient à la maison, je suis cynique, elle était contente. Mais en même temps, il y avait le curé de la paroisse, puis je voulais me tenir occupé un peu. Puis le curé de la paroisse, c'est notre évêque actuel, Claude Hamelin. Il me disait, ben là, tu pourrais entrer dans la chorale, je sais que tu fais de la musique, ta mère me l'a dit, tu sais écrire, tu pourrais écrire, tu pourrais être marguillé, tu pourrais, tu sais, implique-toi en paroisse, puis on verra, tu sais. Alors, elle nous arrive la visite de Mgr Hubert, à un moment donné, qui était l'évêque à ce moment-là, et il nous parle des béatitudes, puis là, son explication m'a sauté aux yeux, sauté au cœur. Je me souviens où j'étais assis, là, dans l'église, au centre communautaire à Candiac, et il a dit, bien, heureux, ça veut dire être en marche, puis c'est notre job d'être chrétien, de consoler ceux qui pleurent. Ça m'a vraiment frappé. J'ai décidé de fouiller un peu plus cet aspect-là là, de ma vie, puis de la vie des gens qui m'entourent. Le problème, c'est que Mgr Hubert est mort 3 jours plus tard. Alors, tout ce que j'avais noté a servi à Mgr Berthelet, qui a présidé ses funérailles. Ça a servi à faire l'homélie. C'est drôle à dire, mais déjà, j'ai vu ça comme un signe. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Je veux aller voir qu'est-ce que c'est, cette affaire-là. Puis là, après la petite démarche et tout ça, avec Yves Bégin, qui est un père qui était ici au Centre des Saisins, l'accompagnement, tout ça, mais il dit, bon, ben OK, vas-y, va voir. Va voir, si ça t'intéresse, ben on va continuer à te supporter là-dedans. Puis j'ai fait mes 3 ans de théologie après ma année de propédeutique, de préparation. Et puis là, ben j'ai continué à être pas mal qui je suis, mais avec ce bagage-là en plus.
Qu'est-ce qui te fait vivre là-dedans?
Disons que je m'identifierais pas mal à Saint-Paul à ce niveau-là. Mon chemin de Damas, c'est ce que je viens de vous conter. La découverte que, oui, je peux être utile, je peux servir, ça fait partie de moi en même temps. Et une autre phrase de Saint-Paul, puis de Jésus aussi, qui dit on est ses fils adoptifs. Et l'avorton que je suis, connaissant mon histoire de la petite enfance, j'ai été adopté à 3 ans et demi, et c'était la 3e famille d'accueil. Et je me souviens du jour de mon adoption, les gens qui étaient là, les jeunes qui étaient là, qui tiraient les pantalons du monsieur puis de la madame. Moi aussi, je veux y aller, j'ai ces moments-là qui sont encore là. Alors, le souci de l'autre me vient un peu de ce que Saint-Paul découvre sur son chemin de Damas, et le fait de se reconnaître petit, finalement, puis au service.
Que ce soit avec les jeunes ou les personnes avec qui tu entres en contact,
ouais.
Qu'est-ce que tu penses qu'est la couleur, je vais le dire d'une façon poétique, en tout cas un essai de poésie, de ta couleur, de la couleur de Dieu que tu, dont tu témoignes ou que tu apportes dans les milieux où tu te trouves?
Ben, c'est loin du Dieu vengeur que mon père a appris, puis que ma mère a appris aussi. Il y avait peur de Dieu en même temps, eux autres. Ils pratiquaient leur religion parce qu'il fallait, tu sais. Ma mère faisait son chapelet, puis elle finissait son chapelet, puis elle disait, ben, elle, quand elle finissait pas, elle dit, ben, tu le finiras, tu sais. Tu finiras, elle disait à Marie, tu finiras de son chapelet, tu sais. Mais ce genre d'affaires-là, c'est pas des gens d'adoration non plus. Mm-hmm. Alors, moi, de mon côté, c'est plus de dire que Dieu, il est là, il nous écoute, il est attentif à ce qu'on vit.
Mm-hmm.
C'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament qui entend son peuple qui braille en Égypte, là, t'sais. Et dans un langage le plus actuel possible. Je vais même des fois je vais faire exprès pour utiliser des expressions un peu inhabituelles pour parler là, de. Ben, je sais pas, prenons l'exemple de Marthe et Marie là, en fin de semaine.
Mm-hmm. Oui.
Bon, Marie est une contemplative, l'autre, elle l'est moins. Mais Marthe fait probablement des meilleures tartes que Marie. Là, en même temps, là, tu sais, sont tous les deux à l'écoute ou en service. Tu sais, c'est les deux aspects. Et j'aime toujours dire, ben, je suis le personnage que Jésus ou que Dieu interpelle. Je m'identifie à ce personnage-là. Ou j'essaie de trouver un aspect de ma personnalité qui ressemble à ça. On parlait tantôt du Petit Prince, c'est sept planètes qui visitent, les sept personnages qui sont là. On peut s'identifier de temps en temps au mathématicien, à l'allumeur de réverbère, il fait parce qu'il faut, puis tu sais, bon.
Et parfois le renard.
Ah oui, on le voit bien qu'avec le cœur.
Oui, et voilà. Oui,
et voilà, c'est ça. Jerry Boulette a repris ça, puis moi j'aime ça le reprendre à la manière de Jerry Boulette, mais Le Petit Prince est quand même le livre le plus publié dans le monde, après la Bible, faut pas oublier ça.
Oui, ça ne m'étonne pas, oui.
Et c'est très d'actualité, quand on le relit, c'est un conte philosophique qui n'est pas seulement pour les enfants, et même loin d'être là pour les enfants. Quand on voit même la dédicace du livre, il adresse ça à un juif qui s'appelle Léon, et il est en camp de concentration. C'est écrit en 42, là, en plein milieu de la guerre. Lui, il est en exil. Il est parti parce qu'il est pilote d'avion, puis il aurait été pris dans le tumulte d'être pilote.
Écoute, on aurait bien des choses à discuter avec toi. C'est le tout le temps qu'on avait.
Ben voilà.
J'ai même pas le temps de dire, d'habitude, je demande toujours à Micheline le dernier mot de la fin. Est-ce que tu as le temps de dire ton petit dernier mot de la fin avant qu'on parte, Micheline?
Non, je suis paralysée.
Ah ben alors, je vous souhaite à la prochaine.
Salut!
Bye!
Bye!